Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle émission qui rend hommage à Gustave Flaubert, dont on célèbre tout au long de cette année 2021 le bicentenaire de la naissance. Et après un gros plan hier sur Madame Bovary, chef-d'œuvre de l'auteur, grand livre de la modernité et de la féminité, place aujourd'hui à la deuxième fiction de l'écrivain, intitulée Salammbô, prénom d'une autre héroïne venue des temps anciens et que Flaubert choisit pour incarner à nouveau la passion amoureuse, mais cette fois sur fond de guerre à Carthage, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Un roman historique qui, depuis sa publication en 1862, n'a eu de cesse d'inspirer les artistes au point que le Musée des Arts de Rouen propose actuellement une grande exposition intitulée Salammbô, fureur, passion, éléphant, point d'exclamation. Et dans un instant, nous allons retrouver le commissaire de la manifestation, Sylvain Amic, pour une visite guidée. Mais d'abord, retour à la maison natale de Flaubert, dans son jardin exactement, en compagnie d'Yvan Leclerc, spécialiste et professeur émérite à l'Université de Rouen-Normandie, qui depuis hier nous retrace les moments clés de la vie et de l'œuvre de l'auteur. Et pour cette deuxième émission consacrée à Gustave Flaubert, nous retrouvons Yvan Leclerc qui signe cet album Flaubert publié dans la Pléiade, en même temps d'ailleurs que le quatrième et cinquième volume de l'œuvre de Flaubert, pour parler cette fois non plus de l'influence de Rouen et de la Normandie, mais au contraire de l'influence du lointain, de l'Orient où Flaubert s'est rendu pour un très long périple de 18 mois. Qu'est-ce qu'il a visité exactement, Yvan Leclerc ?
Alors, il part avec un vrai voyageur qui est Maxime Ducamp. Nous sommes en 49 et il reviendra. Il part en octobre, novembre 49 et il reviendra en mai 51. Et alors, Maxime Ducamp, lui, a déjà fait un voyage en Orient. Il prépare ça de très longue date. Ils emportent 300 kilos de bagages. D'autant que Maxime Ducamp fait de la photo. Donc, il part avec des appareils extrêmement lourds. Et ils vont faire le tour de la Méditerranée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Contrairement à quelqu'un comme Chateaubriand qui était parti par l'Italie et la Grèce, c'est-à-dire entré en quelque sorte par notre antiquité, hein, l'antiquité la plus proche, eux, ils vont se dépayser immédiatement en traversant tout de suite la Méditerranée en commençant par l'Égypte. Donc dépaysement total. Et donc ils vont passer par tous les pays du pourtour méditerranéen. Ils avaient envie d'aller jusqu'en Perse, mais ils n'y vont pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils commencent à manquer d'argent. C'est un voyage qui coûte une somme considérable, où Flaubert engloutit en gros la part d'héritage qu'il avait reçue au moment de la mort de son père en 46. Sans cet héritage d'ailleurs, il n'aurait pas pu partir. Et deuxième raison, il y a des troubles politiques et donc ils craignent pour leur vie. Et puis troisième raison, on le sait depuis quelques années, on a retrouvé des lettres de Maxime Ducamp à Jules Duplan, qui était un de ses amis resté en France, où il n'en peut plus de Flaubert, parce que Flaubert est un voyageur mais dans sa tête. Et pour se prendre en charge sur le terrain et au quotidien, c'est très compliqué. Ducamp plutôt définit Flaubert comme étant un anti-voyageur. La formule est très rude. Et donc, Ducamp a décidé de hâter leur retour parce qu'il supporte mal la présence de ce compagnon, qui est un compagnon très charmant, mais pas fait pour le voyage au long cours.
Est-ce que c'est de ce voyage que naît l'envie, plus tard d'ailleurs, même beaucoup plus tard, après la publication de Madame Bovary, son premier roman, l'écriture de Salammbô, qui se déroule donc à Carthage, ce site tunisien déjà disparu, évidemment, à l'époque de Flaubert au XIXe siècle, mais qu'il fait revivre via ce roman?
Salammbô, on ne sait pas trop comment lui vient l'idée. Il enchaîne immédiatement quand il a fini de corriger les épreuves de Madame Bovary, au mois de mars. Donc le procès de Madame Bovary, c'est janvier-février, donc il est acquitté. Et dès le mois de mars, on a une première lettre à Michelet où Flaubert dit que, bah, comme les romans, les sujets contemporains lui sont interdits parce qu'on va encore lui chercher des histoires, ben, il va prendre un sujet historique, comme ça, il sera à couvert. Il utilise l'image du bouclier, l'histoire lui fournira un bouclier, donc il pourra raconter toutes les horreurs qu'il voudra, et il y en a dans Salammbô. La justice ne viendra pas l'embêter. Donc, mais ça sort un peu comme ça du chapeau. Évidemment, Flaubert s'intéresse à l'Orient comme à titre personnel et comme tous les romantiques de sa génération, hein, depuis toujours. On trouve des traces de ce rêve oriental dans ses lettres et dans les écrits de jeunesse. Il s'est d'abord intéressé à un Orient, comment dire, fantasmé ou un Orient poétique. Et puis progressivement, il a fait des lectures extrêmement savantes sur l'Orient, en particulier pour préparer son voyage. Alors pour Salammbô, du coup, il n'est pas passé en Tunisie. Et donc il commence à écrire Salammbô, premier chapitre, deuxième chapitre. Troisième chapitre, c'est celui où les mercenaires quittent les murs de Carthage pour se déplacer. Et là, il se rend compte qu'il ne connaît rien au terrain. Et qu'il va falloir qu'il se rende sur place, parce qu'il y a des batailles qui se préparent dans le roman, et il ne sait pas trop comment les armées vont pouvoir bouger. Donc c'est essentiellement pour voir le paysage, le côté topographique, il le dit lui-même, qu'il va passer 2 mois en Algérie, en Tunisie, alors essentiellement à Carthage, bien sûr, autour, et puis il va monter jusqu'à Bizerte, et puis aller un peu à l'intérieur des terres. Il cherche en particulier où pourrait être le défilé de la hache, là où les mercenaires vont être enfermés dans une sorte de couloir rocheux où ils vont tous mourir d'inanition avec des scènes de cannibalisme insupportables. Bon, donc ça, il va voir sur place le côté topographique. Mais effectivement, comme vous le disiez, les fouilles n'ont pas commencé. Donc Flaubert ne voit rien, mais peu importe. Ce qui l'intéresse, c'est la situation. C'est-à-dire qu'il voit encore les ports, il voit le port militaire, le port de commerce. Tout ça est encore en place. Et puis la colline de Birsa, donc il n'y a plus rien. Mais il voit quand même la topographie des lieux, et ça l'intéresse. En particulier, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, la fameuse première phrase, on sait à peu près où était Mégara.
Eh bien, on va poursuivre ce voyage justement en Orient, en nous rendant tout de suite au Musée des Arts de Rouen, où se tient cette exposition Salammbô, Fureur, Passion et Éléphant.
Bientôt, les éléphants furent au centre de la plaine.
Il est question de toute l'inspiration que ce roman a pu avoir sur les peintres, les sculpteurs, et une présentation que nous allons découvrir tout de suite.
Pourquoi Salammbô, hein ? C'est quand même la question. Qu'est-ce qui vous nous a pris de travailler sur Salammbô ? Et j'ai l'impression qu'il faut être un peu fou pour écrire Salammbô, un peu fou pour se mettre à illustrer Salammbô, et un peu fou pour faire une exposition Salammbô. Donc il y a une part de folie partagée. Salammbô, franchement, c'est un raz-de-marée. C'est-à-dire qu'on voit que c'est le roman qui a le plus stimulé les créateurs, et pas simplement les créateurs de son temps, mais les créateurs de toutes époques jusqu'à aujourd'hui. Sylvain Amic, je suis le directeur de la Réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie et commissaire général de l'exposition Salammbô.
Qui s'intitule « Fureur, passion, éléphant » avec 3 points d'exclamation. Pourquoi cet intitulé ?
Parce que Salammbô, c'est un roman qui est un véritable déferlement de sensations fortes, d'émotions. Et on y retrouve ces grands déterminants de l'histoire humaine, la fureur, la colère, la passion amoureuse. Et on y retrouve aussi des animaux qui jouent un rôle fondamental, et en particulier les éléphants. Vous vous rappelez les éléphants carthaginois, les éléphants d'Hannibal, les éléphants qui ont fait peur aux légions romaines, eh bien, ils jouent un rôle fondamental. Donc on est là un peu comme dans un péplum où on annonce la couleur. Fureur, passion, éléphant, vous en aurez pour votre argent.
Est-ce qu'il faut avoir lu Salammbô pour apprécier cette exposition ?
Alors pas du tout, justement, on s'adresse à ceux qui n'ont pas lu Salammbô ou à ceux qui ont juste envie de se laisser emporter dans ce tourbillon d'images qui est vraiment dans une autre époque, un autre temps, un autre imaginaire qui nous amène bien loin de notre contexte actuel. Et on apporte toutes les clés nécessaires pour la compréhension non seulement du roman, son contexte dans lequel il a été écrit, que ce soit le contexte politique, historique, littéraire, culturel, mais aussi comment les artistes ensuite s'en sont emparés et ont apporté leur imaginaire et ont développé en, en quelque sorte en livre d'images, en tableaux, sculptures, opéras, bandes dessinées, ce roman qui n'a cessé d'alimenter leur imaginaire, et comment ensuite l'archéologie nous permet de revenir au vrai, au réel, car Flaubert a non seulement déchaîné l'imaginaire des artistes, mais il a déclenché les grands chantiers de fouilles à Carthage, et grâce au prêt de la Tunisie, du musée de Carthage, on est en mesure, et du prêt du musée du Louvre, on est en mesure de vous montrer les produits de ces grandes campagnes de fouilles qui nous disent beaucoup sur la réalité de la civilisation punique.
Et si il n'est pas nécessaire d'avoir lu le roman pour apprécier ici cette exposition au musée de Rouen, comment est-ce que vous présenteriez le livre à quelqu'un qui ne l'a pas lu? Qui est Salammbô et quelle est son histoire?
Salammbô, dans le livre de Flaubert, c'est la fille du général Hamilcar, c'est-à-dire le général en chef des forces carthaginoises, qui vient de se battre contre Rome et qui n'est pas encore rentrée. Et ses soldats sont déjà là, ces mercenaires redoutables qui ont combattu les légions romaines, et ils réclament leurs soldes. Et les aristocrates de Carthage refusent de les payer. Donc c'est vraiment la lutte des classes, en fait. Ces pauvres mercenaires qui se sont battus pour une ville et qui réclament qu'on les paye. Et Salammbô, elle, est élevée dans l'ignorance de toute chose. C'est la fille du général. Elle est élevée dans le culte de la déesse Tanit, la déesse de la lune. Et elle va pour pacifier en fait la situation, se précipiter au milieu des barbares, au milieu des mercenaires, pour calmer leur colère. Et ce faisant, elle va rencontrer l'homme qu'elle n'aurait jamais dû rencontrer, Mato, qui est lui le chef des mercenaires. Et de cette rencontre va naître une liaison fatale qui va précipiter tout le monde dans la guerre et dans une guerre sans merci pour la conquête du pouvoir, la conquête de la ville et la conquête de Salammbô. Donc c'est une femme qui est complètement tiraillée entre ce qu'elle commence à ressentir et puis le contexte dans lequel elle a été élevée, qui lui interdit d'échapper finalement au destin qui est tout tracé par son père ou par les prêtres pour servir leurs intérêts politiques. Donc c'est un roman de l'émancipation, d'une tentative d'émancipation qui finit mal. Mais finalement, Madame Bovary, c'était aussi ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a voulu transgresser la morale et les règles de son époque et qui en a payé le prix.
Combien de pièces sont présentées ici?
Alors on est sur environ 300 pièces. Alors cela va du couvercle de sarcophage d'une tonne au tableau de 3 mètres, en passant par un petit pendant d'oreille qui va faire 1 cm, ou des images populaires, des films, etc. Donc on est dans cette réunion de témoignages qui nous font prendre conscience d'un véritable phénomène culturel, puisqu'on le retrouve aussi au cinéma, dans la bande dessinée, dans la musique. On voit que Salammbô, dans l'art contemporain même tunisien, on voit que Salammbô est un héritage en fait qui est très fructueux, que l'on fait fructifier de part et d'autre de la Méditerranée.
Donc en route et partons à la découverte des différentes salles du musée avec Sylvain Amic.
Voilà, on va commencer à visiter l'exposition. On s'adresse à un public qui n'a pas lu le livre, donc on commence par ce film qu'on a appelé le film des grands témoins, qui introduit le propos et qui donne le contexte du roman. Et puis la phrase que vous connaissez tous, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar, qui est la première phrase du roman, qui résonne comme ça et que Flaubert a tout de suite trouvé et déterminé. Et Salammbô devient une de ces héroïnes qui précipite la chute des empires, en quelque sorte. C'est la nouvelle Hélène de Troie, ou c'est la nouvelle Pandore, en quelque sorte. Elle rejoint dans le cohorte des femmes damnées, fatales, celles qui ont causé les guerres par leur beauté. Et passé cette salle-là, on souhaite maintenant explorer les sources de Flaubert, comment il a construit son roman, le contexte archéologique, le contexte aussi culturel, et puis le contexte de son époque, le contexte politique de son époque.
Et dans la deuxième partie consacrée aux sensibilités contemporaines, on est accueilli par une immense photographie représentant Mrs. Algernon Bourke, costumée en Salammbô.
Si vous voulez trouver un beau costume à Londres pour vous rendre au bal costumé en 1897, vous pouvez choisir Salammbô. Mrs. Algernon Bourke, elle avait visiblement les moyens de se faire confectionner un très beau costume, parce qu'elle a posé dans ce costume incroyable qui est complètement inspiré de Salammbô. Donc c'est vraiment une traînée de poudre, en fait, ce roman. Là, on est en Angleterre, mais il y a des Salammbô en Tchécoslovaquie, il y a des Salammbô en Allemagne. Toute l'Europe va être emportée par ce roman.
Dans toute l'Europe, en effet, dont l'Allemagne, comme en témoigne cet artiste, dont une toile a été prêtée par le musée de Weimar, que nous décrit Sylvain Amic.
Alors c'est un artiste qu'on ne connaît pas en France, il s'appelle Karl Stratmann, qui a fait l'objet d'une grande rétrospective à Munich il y a quelques années. Et Karl Stratmann, c'est l'artiste de l'art nouveau. Et vous voyez que lui, c'est la danse avec le serpent, mais qu'elle n'est pas du tout érotisée. On est plutôt dans l'imaginaire du conte de fées, avec cette grande image où il y a là aussi surenchère graphique, surenchère de détails, surenchère de couleurs et de préciosité, les faux marbres et les mosaïques. Et si vous vous approchez, vous allez voir que la harpe incroyable avec sa tête d'éléphant, elle est constellée de petites pierres qui accrochent la lumière, un peu d'ambre, un peu de pierre synthétique, un peu de pierre précieuse, qui vont encore apporter plus de luxe et plus de brillant, de resplendissant, c'est encore plus resplendissant avec cette adjonction. Un tableau tout à fait fascinant avec ses fleurs qui semblent vénéneuses. Même le serpent a des écailles géométriques, on dirait un pavement avec ses écailles octogonales.
Un peu plus loin, apparition d'une pièce maîtresse, un manteau spectaculaire de plusieurs mètres de long, tout en couleurs, pierres et broderies. Explication.
Avec cette exposition, on est allé chercher des œuvres vraiment complètement inconnues. Et celle-ci est la plus inconnue des inconnues, probablement. Puisqu'il s'agit d'une broderie de Marie Rochegrosse, qui a réalisé cette composition incroyable, que nous avons restaurée pour l'exposition, 6 mois de travail, 36 000 euros. Donc on y retrouve déjà cette esthétique précieuse, cette magnificence qui est projetée par le roman de Flaubert, par la qualité des matériaux, de la soie, des plumes, des pierres qui sont assemblées, qui sont brodées dans l'objet. On y retrouve tous les symboles, la bête sacrée, le python que l'on retrouve ici, qui fait ce zigzag et qui accompagne Salammbô qui est là, vous la voyez ici. Hein. Et puis les puissances bénéfiques et maléfiques qui sont assemblées. Donc c'est un objet unique.
Il pèse combien de kilos à votre avis?
Je ne sais pas, il faudrait demander à la restauratrice. Il est assez lourd, donc on a fait créer un support aussi pour pouvoir le présenter correctement. C'était un pari parce qu'on ne savait pas où on irait. Hein. Il y avait un dégât des eaux qui avait sur cet objet, qui avait fait couler les couleurs, qui avait vraiment tout abîmé. Il y avait une espèce de bordure en velours rouge qui était absolument affreuse, qui avait été rajoutée pour lui donner un peu de tenue. Donc aujourd'hui, l'œuvre est sauvée. On a même financé son conditionnement, etc. etc. Elle pourra être ensuite conservé dans de bonnes conditions et puis réexposé. Vous savez que pour les textiles, on a des précautions particulières qu'on doit respecter.
Et après, la vue, le toucher, un autre de nos sens est sollicité dans l'exposition avec la découverte sonore des liens entre Flaubert et la musique, l'opéra en particulier.
Flaubert, il est tenté par la scène, ça l'excite, ça lui plaît. Et il est associé dès le début à un projet d'opéra, parce que, comme le dit Maupassant, est-ce là un roman, n'est-ce pas plutôt une sorte d'opéra en prose? Donc on voit bien qu'il y a la matière d'un opéra. Et donc au départ, le projet, c'est Verdi à la musique et Théophile Gautier au livret. Ça aurait été génial, non? Donc finalement, c'est Reyer, qui est un compositeur né à Marseille, qui est un grand compositeur wagnérien, et puis Duloc, qui est un habitué du livret d'opéra. Mais Flaubert est associé au projet, puisqu'ici vous avez le découpage du roman sous forme de tout petit scénario, la petite feuille qui est là, c'est comment on peut adapter ce livre à l'opéra. Alors le premier opéra qui est joué, c'est celui de Reyer et Duloc, mais des opéras, il y en a 7 ou 8 qui sont par un compositeur italien, un compositeur tchèque, etc., etc. Il y a des suites symphoniques. Moussorski a fait un poème symphonique sur Salammbô, inachevé, dont il va reprendre des éléments dans ses compositions ultérieures. Et puis très récemment, vous avez ici le premier opéra créé pour l'opéra Bastille, c'est une Salammbô de Philippe Fénelon. Et là, vous avez un des costumes des suivantes de Salammbô. Vous avez dans la vitrine une des photos de scène. Donc on retrouve dans cette vitrine les partitions de ces différents opéras. On a quelques extraits que vous entendez. Et vous avez aussi, comme je vous le disais, des costumes et des coiffures travesties qui s'inspirent aussi de cette nouvelle mise en scène.
Et après plusieurs salles consacrées aux films et aux cinéastes, dont Orson Welles dans Citizen Kane, qui ont été inspirés par Flaubert, sans oublier le dessinateur contemporain Philippe Druyer, qui a illustré Salammbô dans son intégralité, on arrive au terme de l'exposition dans un espace tout à fait étonnant qui nous ramène à Carthage, sur les lieux du roman même, mais sur le site tunisien d'aujourd'hui, resté fidèle à l'œuvre de l'écrivain français Sylvain Amic.
Et on conclut avec cette petite image de Salammbô aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que Salammbô ? Mais c'est une ville. C'est une ville à côté de Carthage, dans Carthage, qui s'appelle Salammbô. Et ce photographe, Douraïd Souissi, nous a fait ces prises de vue qui nous montrent la trace de ce nom Salammbô qui est partout. Vous avez même la pizzeria Salammbô, vous voyez. Donc le mot revient comme un mot usuel. Donc il y a l'hôtel Salammbô, le parc Salammbô, le centre médical Salammbô. Évidemment, quand on voit ça en ayant en tête le roman et cette exposition, on voit plein de petits trucs qui nous font penser au roman. Donc on voit par exemple le parc Salammbô, on dit ben oui, c'est le parc où les mercenaires festoient. On voit, il y a un centre médical Salammbô, on voit un caducé, on dit ben voilà le serpent. On a l'impression de retrouver tous les ingrédients du roman qui est totalement du coup approprié dans le. Voilà, vous voyez encore Libertà Yabasta. On a l'impression que c'est les mercenaires qui réclament leur liberté, les esclaves qui réclament leur liberté. Et alors, le nom des rues sont des rues avec des. C'est la rue Juba, la rue Amilcar, etc., etc. Donc, on vit dans un univers qui est complètement habité par le roman, par l'histoire, mais on ne démêle plus, si vous voulez, la fiction du réel, en fait. On est dans le site de Carthage, dans la ville Carthage-Salammbô. Ça, c'est la gare qui est en cours de travaux, vous voyez. On a l'impression de vivre avec le roman.
Mais depuis combien de temps ça s'appelle le quartier Alors, Carthage ?
Ça fait partie des noms qui sont restés après l'indépendance, pardon. Beaucoup de noms de lieux ont été débaptisés, rebaptisés, et Salammbô est resté.
Depuis le roman de Flaubert.
Alors, je pense que les noms ont été donnés plutôt au XXe siècle, à l'époque coloniale française, au moment où on a redécouvert le site de Carthage, au moment de ces fouilles-là. Mais en fait, ce sont des villes qui se sont créées aussi, parce que c'était des zones qui n'étaient pas forcément habitées. Donc, c'est des nouvelles villes. Enfin, des nouvelles villes, elles datent, vous voyez. Là, on a l'impression que Madame Salammbô va sortir en peignoir, vous voyez. Mais on est dans des villes qui sont créées à partir de 1920, 1930, etc.
Et d'ailleurs, ce lien avec la Tunisie est resté si fort depuis deux siècles, grâce à Salammbô, que l'exposition du même nom, qui sera itinérante prochainement, sera présentée après le Mucem à Marseille, au musée Bardot à Tunis.
Et pour finir, cette émission consacrée à Gustave Flaubert, toujours évidemment dans le cadre du bicentenaire de sa naissance, en décembre 1821... Retour dans cette maison natale ici à Rouen avec Yvan Leclerc, maison qui est devenue le musée Flaubert. Bien entendu, Gustave Flaubert n'est pas décédé ici. Néanmoins, il est mort pas très loin d'ici, à Croissy, sa nouvelle résidence, à l'âge assez précoce de 58 ans, de façon aussi assez brutale. Comment est-ce qu'on explique cette fin un peu précoce ? Est-ce que c'est lié à cette époque, à cette génération, ou c'est quelqu'un qui a vécu si intensément qu'il en est mort plus brièvement ?
Alors Flaubert avait une hygiène de vie déplorable. Un exemple à ne pas suivre, il ne bougeait pas. Il passait 10 heures par jour à sa table de travail, parfois beaucoup plus. Et alors, non seulement il ne fait pas de sport, si, il nage quand même un peu dans la Seine, jusqu'à un âge avancé, mais nager pour lui ça voulait dire flotter, c'est-à-dire qu'il ne devait pas se dépenser beaucoup physiquement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il théorise le fait qu'il ne marche pas, parce qu'il dit que la marche est anti-philosophique. Enfin, pour former les idées, il faut vraiment être assis à sa table de travail et avoir, ce qui est plus intéressant pour nous, avoir une plume à la main et noter ce qui lui passe par la tête. Il n'y a pas beaucoup de brouillons mentaux. On dit parfois que Flaubert rêvassait avant de se mettre à écrire, je n'y crois pas du tout. Il dit ailleurs qu'il ne peut former des phrases et des pensées que la plume à la main. Et alors, c'est très bien parce que comme il a gardé tous ses papiers, du coup, on ne perd pas beaucoup d'informations qui seraient restées simplement mentales. Donc, hygiène de vie déplorable. Il avait ses crises nerveuses. Alors, on se demande d'ailleurs, certains se demandent si c'est pas une crise nerveuse qui a mal tourné et qui aurait été à l'origine de l'hémorragie cérébrale qu'il a emportée, c'est pas exclu. Et puis par ailleurs, comme la plupart des hommes de sa génération, il était syphilitique. Il avait rapporté ça du voyage en Orient. Et donc, il prenait des médicaments à base de mercure, qui devait soigner d'un côté mais empoisonner de l'autre. Donc ça peut expliquer aussi sa fin prématurée. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas eu d'agonie. Hein, il est mort vraiment. Il s'apprêtait à partir le lendemain. Il avait fait ses bagages et il devait partir à Paris. Il est mort donc brutalement. Les dernières années de sa vie sont assez tristes parce que sa nièce ou son neveu par alliance avait fait faillite. Pas faillite exactement. C'est pas exactement une faillite, mais était quasiment ruiné. Et donc, ces dernières années sont vraiment très noires, très sombres, très désespérées. Et on peut penser que ça n'a pas été étranger non plus à une sorte de fin comme ça, prématurée. Il a eu de dernières années très tristes.
Il meurt exactement le...
Le 8 mai 1880. 8 mai 80.
Sans enfant, sans postérité donc.
Sans enfant, sans postérité. L'idée d'être père était quelque chose. Il y a des lettres à Louise Collet. Louise Collet se demande si elle n'est pas enceinte et il répond que l'idée d'être père lui fait absolument horreur, que transmettre la vie, c'est transmettre la mort, etc. Enfin, il y a une vision un peu apocalyptique de la paternité qu'il va transmettre à son personnage de Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale. Mais il a eu une sorte de compensation, si l'on peut dire, ou une double compensation. D'abord avec sa nièce dont il s'est occupé comme si c'était sa propre fille jusqu'à l'âge de 17-18 ans, quand elle se marie. Elle n'allait pas à l'école, et donc c'est lui qui était son précepteur à domicile. Et puis alors l'autre compensation, c'est une paternité spirituelle ou littéraire avec Guy de Maupassant. Guy de Maupassant qu'il va retrouver, parce qu'il l'a connu quand il était jeune. Et quand le petit Maupassant, le petit qui a déjà grandi, il a 23 ans, il vient voir Flaubert, Guy de Maupassant commence à s'intéresser à la littérature. Et pendant les 7 dernières années de la vie de Flaubert, Maupassant les deux vont s'accompagner, vont se rapprocher de plus en plus, jusqu'à Boule de Suif, que Flaubert lit quelques mois avant sa mort. Et là, il y a une vraie fausse filiation de paternité entre le maître et le disciple. Alors, ils utilisaient les termes avec des guillemets pour d'une façon humoristique, parce qu'évidemment, Flaubert n'a jamais joué au maître ni au professeur avec personne. Mais là, il y a un rapport très très fort qui a pu compenser ce que Flaubert n'a pas vécu sur le plan d'une paternité réelle.
Il lançait des javelots avec une vitesse effrayante.
Et c'est ici que nous refermons le deuxième et dernier chapitre, pour l'instant, de notre hommage à Flaubert, dont on célèbre tout au long de l'année le bicentenaire de la naissance, comme en témoignent les 200 événements culturels proposés en Normandie et ailleurs. Toutes les références des livres cités avec Yvan Leclerc et des expositions visitées hier et aujourd'hui sont à retrouver sur le site internet de RFI.fr. En cliquant sur la page Littérature sans frontières et l'onglet podcast pour réécouter ces deux émissions spéciales, les partager et les commenter. D'ailleurs, pour ne manquer aucun numéro, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée.
Bientôt, les éléphants furent au centre de la plaine. L'espace leur manquait. Ils se tassaient à demi cabrés. Les ivoires s'entrechoquaient. En sol majeur.